Swing Time 2017. Swing Time, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Bonjour Alain.
Bonjour Martine, bonjour tout le monde.
Bonjour à tous. Alors le titre de l'émission, elle est exclusivement en anglais.
Ah oui, c'est de l'anglais, c'est même de l'américain, c'est même mais c'est pareil, l'américain. Mais là c'est pareil.
Ça rappelle voilà. Quelque chose, If I Could Be With James P. Johnson, voilà. Ça rappelle un titre.
Ça rappelle un titre de James P. Johnson.
Ah, carrément.
If I Could Be With You When I Were Tonight.
Yeah.
J'espère qu'on comprend pas.
Le message est passé. Eh bien là, on va découvrir ce que ce message cache.
Voilà, déjà il y a un sous-titre, alors avec le sous-titre on commence à comprendre, c'est le roi du slide à Harlem. Mm-hmm. Donc on va parler d'un monsieur qui joue avec un instrument qui est un trépied, il y a trois pieds, en général c'est noir, et puis il y a 88 touches dessus sur lesquelles on appuie, des blanches et des noires, ça s'appelle un piano aussi, voilà. Donc c'est un joueur de piano, James P. Johnson. Alors James P. Johnson, son vrai nom c'est James Price Johnson, donc c'est un homme de prix évidemment. C'est le père du piano stride, car son art pianistique et ses talents de compositeur sont à l'origine de ce style de piano qui est apparu justement à Harlem, le quartier noir de New York, au début du XXe siècle. Et il invente cette façon de jouer après avoir côtoyé de grands pianistes de ragtime. Par exemple, l'inoxydable Hubby Blake, inoxydable, il a vécu presque 30 ans, il était actif, presque 30 ans, presque 100 ans ce monsieur. Hein. Il est né en 1887, il est mort en 1983. Il a joué très très longtemps. James P. Johnson a été l'égal de Willie the Lion Smith, un autre grand pianiste. Et il était le maître d'un pianiste très connu lui aussi, qui était Thomas Fats Waller. Donc, c'est dire que le sous-titre de l'émission, Le roi du stride à Harlem, n'est pas exagéré.
C'est justifié. Hein.
C'est tout à fait justifié, j'espère. On va essayer de le prouver tout à l'heure. Alors, je vais revenir à notre héros du jour, James P. Johnson. Il est né à New Brunswick, qui est dans le New Jersey. Tout est new hein, aux États-Unis. Hein. C'est Nouvelle-Brunswick, le Nouveau-Jersey, tout ça. Et il est né le 1er février 1884. Il est décédé le 17 novembre 1955 à New York. Donc, on va écouter la carrière de James P. Il a commencé par jouer, ça et là, notamment dans les rain parties. Alors les rain parties, c'était ces endroits chez les locataires, les gens qui ne pouvaient plus bien payer leur loyer. Donc ils faisaient venir des musiciens et puis on jouait copieusement. Alors de temps en temps, ça se passait mal, les voisins râlaient parce que ça faisait du bruit. Soit ils descendaient, soit ils appelaient la police. La police pouvait arriver, des fois ils swingaient avec les gens. Bon, Fats Waller a décrit ça très bien, mais c'est une autre histoire pour Fats Waller. Donc c'était ça les rain parties, mais beaucoup de musiciens, notamment les pianistes, jouaient dans ces fameuses rain parties. Et il a ensuite commencé une œuvre discographique qui est très importante. Il a commencé par des piano rolls. On ne va pas en entendre aujourd'hui parce que ce n'est pas très bon en disque. Mais il a enregistré dès 1917 sur piano rolls. Et puis, il a gravé ses premières cires au tout début des années 20, en 1921 exactement. Et donc, en 1921, quand il a commencé à enregistrer, sa carrière était bien engagée. Et on va commencer l'audition de ses œuvres avec le thème emblématique du stride. C'est un thème qu'il a composé, bien sûr, et que tout pianiste de jazz qui se respecte doit faire, doit jouer. Il doit sacrifier à ce rite de jouer ce titre-là, que je vais annoncer tout à l'heure. Mais le morceau est assez trapu, et parfois c'est le pianiste qu'on sacrifie s'il le joue mal, évidemment. Et on va comprendre ce qu'est ce style de piano stride, dans lequel la main droite et la main gauche se répondent, se soutiennent, se contrarient, en tout cas restent toujours en harmonie. Le thème est développé à droite du clavier et la partie gauche assure les accords, la pompe, on verra pourquoi la pompe, hein, un accord, poum, 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 hein, ça pompe effectivement, un peu comme les Shadocks plus tard. La partie gauche, donc la main gauche, joue les basses pour sublimer le thème. Et toute cette difficulté ne doit pas se percevoir, le swing doit assurer la beauté du jazz le plus pur. Et j'ai choisi deux versions du même morceau qui s'intitule Carolina Shout, le cri de la Caroline. La version de 1921, donc c'est extrait des tout premiers enregistrements de James P. Et une autre version de 1944, dans laquelle James P. Johnson est accompagné par un seul musicien qui est un batteur, qui est Eddie Dougherty, et qui a très souvent accompagné, juste à la batterie, James P. Johnson. On va l'entendre plusieurs fois. Et Hugues Panassier avait souligné dans un numéro du bulletin du Yacht Club de France, le numéro 232 pour les archivistes, hein, ceux qui veulent vérifier, combien la présence d'un batteur apportait à la qualité du jeu de James P. Et on va tout de suite se rendre compte de la maîtrise du clavier, de la permanence du style, de la capacité de renouveler son art musical, puisqu'on va écouter Carolina Shout dans la version hockey de août 21 et Carolina Shout dans la version Commodore de juin 44.
Thank you.
deux fois le même morceau, mais différent.
Oui.
Hein?
Oui, c'est
voilà.
Vrai.
Tempo mais plus titre. Rapide, mais ouais. Même titre, même morceau, même musique, et puis un style un petit peu différent, mais c'est toujours du James P. Johnson. Et on va écouter deux autres thèmes de James P. Johnson qui sont tout autant marquants de son art. Alors le premier des titres qu'on va entendre, c'est un des tout derniers enregistrements qui est fait sous son nom, donc en 1947. Et le second titre appartient à ce que on pourrait appeler du jazz descriptif, puisqu'il s'agit de la démarche d'une mule. Voilà, on va voir cette mule qui va folâtrer, qui va se balader. Alors avec la main droite, c'est là où on voit qu'elle folâtre, qu'elle se balade bien, hein, qu'elle se promène gentiment. Et puis alors, avec la main gauche, on va voir qu'elle claudique très très légèrement. Donc on voit bien que la main droite, la main gauche, ça se répond, c'est indépendant, ça peut se contrarier, mais il faut que ce soit toujours harmonieux et swingant. On écoute donc Old Fashioned Love, qui est un morceau enregistré en juin 1947. Et dans la foulée, si j'ose dire, on va écouter The Mule Walk, la marche de la mule, enregistrée en juin 1939. Thank you. Alors, on vient d'entendre la démarche de la mule. Je pense qu'elle était bien décrite.
Ah,
ouais, elle marchait bien. Hein. Elle claudiquait un peu, mais c'était bien la mule qu'on a entendue. Il n'y a pas de problème. Alors, James Finn Johnson a aussi enregistré avec des petites formations de jazz. Et on va écouter un enregistrement fort ancien dans une belle configuration avec James Finn Johnson comme leader. Cet enregistrement date de 19 octobre 1928. Et le groupe de jazz qui jouait cela s'appelait les Gulf Coast Seven, donc il y avait 7 musiciens. Et la toute première cire de cette séance d'octobre 1928 s'intitule toujours, puisqu'on va l'écouter sous ce nom-là, Daylight Saving Blues. Donc on enregistre cela à New York le 19 octobre 1928. Ça ressemble un peu à Duke Ellington, ça.
Oui, hein? Oui, ça, ah oui, ça sonne.
Voilà, mais c'est pas normal parce que dans les musiciens qui accompagnent James Pete Johnson, le cornettiste c'est Louis Metcalf, donc Louis Metcalf joue avec Duke. Le tromboniste c'est Tricky Sam Nanton qui jouait aussi avec Duke. Le saxophoniste et clarinettiste est Barney Bigard. Il joue du ténor au départ en unisson avec l'autre saxophoniste qui est Johnny Hodges, qui joue de l'alto puis du soprano en solo. Donc on a deux musiciens, mais ils ont joué de quatre instruments. Eux aussi jouaient chez Duke Ellington. Et le batteur, c'était le batteur de Duke Ellington, Sonny Greer.
Alors rien d'étonnant.
Rien d'étonnant, voilà. Alors j'avais annoncé un orchestre de 7 personnes, puisque c'était les Gulf Coast Seven. Il nous en manque un, c'est pas très grave, c'est le chanteur Perry Bradford et il est pas terrible. Donc il n'était pas là, c'est pas grave. Voilà, ce sera dit. Mais c'est une rareté ce disque-là. Alors on va revenir à la carrière de James Pete Johnson et sa carrière comme accompagnateur de chanteuses. Il a accompagné de très très grandes chanteuses, notamment l'impératrice du blues Bessie Smith. Et puis une autre grande chanteuse, mais qui fut autant une chanteuse qu'une actrice, puisqu'il s'agit de Hazel Waters. Et on va écouter ces deux grandes dames du jazz vocal, Bessie Smith et Hazel Waters, dans deux titres forcément bien différents. Le premier avec Bessie, c'est Wasted Life Blues. Vous allez voir, c'est très triste tout de même. Ça a été enregistré en octobre 1929. Et le deuxième titre, il est plus drôle tout de même. Hein. On pourrait le traduire, mon Dieu, quel malheur d'avoir un mari bricoleur, puisque c'est My Handyman, mais j'en parlerai un peu tout à l'heure, My Handyman, enregistré en août 1928.
I've lived a life, but nothing I've gained. Each day I'm full of sorrow and pain. No one seems to care enough for me to give me a word of sympathy. Oh me, oh my, wonder what will the end be. Oh me, oh my, wonder what will become of poor me. No father to guide me, no mother to care, must bear my troubles all alone. Not even a brother to help me share this burden I must bear alone. Oh me, oh my, wonder what will my end be. Oh me, oh my, wonder what will become of poor me. Heart with pain. I'm too weak to stand and too strong to cry, but I'm forgetting it all in vain. Oh me, oh my, wonder what will my end be. Oh me, oh my, wonder what will become of poor me. Traveled and wandered almost everywhere to get a little joy from life. Still I've gained nothing but wars and despair, still struggling in this world of strife. Oh me, oh my, wonder what will my end be. Oh me, oh my, wonder what will become upon me.
Whoever said a good man was hard to find, positively, absolutely, sure was blind. I found the best that ever was. Here's just some of the things he does. He shakes my ashes, greases my griddle, churns my butter, strokes my fiddle. My man is such a handy man. He threads my needle, creams my wheat, heats my heater, chops my meat. My man, such a handy man. Don't care if you believe or not, he sure is good to have around. Why, when my furnace gets too hot,
He's right there to turn my damper down. For everything, he's got a scheme. You ought to see his new starter that he uses on my machine. My man is such a handy man. He flaps my flapjacks, cleans off the table, feeds the horses in my stable. My man, such a handy man. He's God's gift. Sometimes he's up long before dawn, busy trimming the rough edges off my lawn. Oh, you can't get away from it. He's such a handy man. Never has a single thing to say while he's working hard. I wish that you could see the way he handles my front yard. My ice don't get a chance to melt away. He sees that I get that old fresh piece every day. Oh, that man sure is such a handy man.
Chacun a compris que James P. Johnson savait jouer le blues.
Oui.
Voilà. Comme tous les musiciens de jazz, évidemment. Et on était dans un vrai blues avec Bessie Smith, puisque c'était une composition de Bessie Smith, où elle racontait sa vie gâchée. Wasted Life, c'est la vie gâchée. Et c'était pas drôle du tout, hein. Elle dit à un moment donné, enfin, elle chante plutôt. Each day I'm full of sorrow and pain. Tous les jours, je suis plein de chagrin et de peine. Hein. Donc tout ça, c'était d'une tristesse pas possible. Alors le titre suivant était moins innocent qu'on peut le croire, hein, parce que le bricoleur en question, il faut comprendre les paroles à double sens, comme toujours. Alors, quand on prend au premier degré, il n'y a pas de problème. Si on essaye de chercher ce qu'il y a derrière le sens apparent, bon, là, on a un carré blanc qui se met, mais bon, heureusement qu'on ne l'entend pas bien, parce que « he shakes my hashes », hein, bah, « il remue mes cendres », bon, pourquoi pas, mais enfin, c'est un ramoneur un peu particulier, et tout est comme ça.
Je vois, je vois.
Bon, voilà. Alors, ce qui est drôle, c'est que le parolier, c'est un malgache d'origine, Andy Razaf, qui a écrit beaucoup de chansons, donc sur des musiques, il était parolier, notamment pour Fats Waller. Et il s'est adapté très très bien à New York, à l'argot des Noirs américains. Il est arrivé jeune aux États-Unis, mais c'était pas du tout le petit gars de Harlem au départ. Hein. Il venait des hauts plateaux de Madagascar, ce garçon-là. Alors, je voudrais tout de même remettre sur un niveau beaucoup plus romantique cette émission, et on va écouter un titre que j'ai déjà évoqué en introduction, puisque ça va être « If I Could Be With You », une composition de James P. Johnson, et je l'ai mise parce que j'ai dit « si je mets pas ce titre-là, je vais avoir une réclamation ».
Évidemment.
Bon, voilà. Donc,
On l'attendait.
J'aurais peut-être dû la mettre en premier, mais je voulais faire jouer un peu de suspense, hein, c'est pour ça. Mais on va écouter « If I Could Be With You, One Hour Tonight », Martine, hein, on l'avait dit tout à l'heure, évidemment. Et on va entendre James P. Johnson avec son fameux batteur qu'on a déjà entendu, qui est Eddie Dougherty à la batterie. Et c'est un titre enregistré pour Decca à New York le 22 septembre 1944. On sait tout.
Thank you.
changé de genre, mais toujours avec James P. Johnson, puisqu'il s'est essayé à des compositions, on va dire, plus ambitieuses, différentes en tout cas, un peu à la manière de Duke Ellington, qui l'a inspiré, on l'évoquait tout à l'heure, Duke Ellington. Et on va écouter la dernière partie d'un morceau qui s'intitule Jim Crow et qui est sous-titré A Negro Rhapsody, donc une rhapsodie nègre. Et si la composition de ce titre remonte à 1927, l'enregistrement date vraisemblablement de 1944. Donc voici la partie numéro 4 de Jim Crow. Voilà, c'est un morceau étrange, surprenant, qui swing hein, tout de même. Mais James P. Johnson, c'est un grand compositeur américain de la première moitié du XXe siècle. On peut dire ça comme ça, un peu comme Duke Ellington d'ailleurs. Et c'est un compositeur que les pianistes de Ragtime, le Strive, vont reprendre jusqu'à aujourd'hui. Hein, on joue toujours les titres de James P. Hein, le dernier concert avec Stéphane Etrick et Paolo Alderighi, il y avait du James P. Johnson, évidemment. On va donc écouter maintenant deux titres emblématiques de l'art de James P. Le premier, c'est un solo de piano. Le second, c'est en orchestre, avec un orchestre là aussi surprenant, puisqu'on a Sidney de Paris à la trompette, Ben Webster au ténor, n'est-ce pas, Martine ?
S'il vous plaît.
Voilà, et on a Vic Dickinson au trombone, Vic Dickinson que Claude Alain adore aussi. Voilà, donc on a des musiciens qu'on aime ici. Et on va écouter Daintiness Rag au piano, enregistré en 1943, et Victory Stride, parce qu'on est en mars 1944, en orchestre. Thank you. ça déménage.
Oui.
Oh ben, forcément que ça déménage. Hein. À Swing FM, ça déménage toujours. Voilà. Et je vais annoncer toute la section rythmique, parce que comme la section rythmique, elle pulsait bien, elle déménageait elle aussi. Il y avait Jimmy Shirley à la guitare, John Simon à la basse, et le batteur, forcément, Big Sid Catlett.
Hein, quoi. Ah, oui.
C'est lui qui relance sans arrêt la bien caractéristique de son style. Alors, on va passer maintenant à de grands succès enregistrés par James B. Johnson et on va essayer de s'attacher à en remarquer la variété de cette musique, de tous ces succès. On a vu que James B. pouvait jouer en petite formation, qu'il pouvait jouer en solo, qu'il pouvait jouer seul avec un batteur. Et bien, pour commencer, on va écouter un enregistrement de janvier 1930 dans lequel James B. est tout seul avec son piano, le fameux trépied, 88 touches, noir et blanche. Et on va écouter quelque chose de très, très moderne, du jazz moderne, puisqu'il s'intitule « You've got to be modernistic ». Et c'est enregistré en novembre 1929. On est très modernistique.
Très.
À Swing FM.
On a eu peur, mais on est. Ça va.
Voilà, mais on est modernistique, absolument. Alors, on a pu entendre donc James P. Johnson, et puis on a entendu un chœur aussi que je trouve pas terrible. Pourtant, dans le chœur, on nous dit qu'il y a James P. Johnson, qu'il y a Fats Waller et Teddy Bunn. Je trouve qu'ils ont une voix bien au perché, mais pourquoi pas. Et puis, on avait donc comme soliste le pianiste James P. Johnson, un ténor qui était Charlie Fraser, un tromboniste qui était Jimmy Archer, au banjo Teddy Bunn, et il y avait un King Oliver qui jouait l'unique, qui jouait du cornet et qui était encore superbe à l'époque, hein, qui jouait encore très très bien. L'excellent batteur, que je trouve excellent, mais il s'appelle Hunk Noon, donc c'est un monsieur qu'on voit souvent, mais je ne le connais pas plus que ça. Voilà, on avait Hunk Noon à la batterie. On va passer au mois de septembre 1944 et on va écouter un autre air très délicat du grand James P. Johnson. Vous allez voir pourquoi c'est délicat. Il est toujours accompagné par le batteur attitré Eddie Dougherty. Et rien que pour le plaisir, on va enchaîner avec un autre exploit pianistique tiré de la même séance. Donc on va écouter deux morceaux en suivant. Le premier, c'est un air délicat qui est dédié aux portiers de tous les hôtels, qui sont amoureux des femmes de chambre, puisque ça s'intitule « Et où ça arrive ».
Il ne suffit pas d'être portier, on peut être aussi.
Voilà, mais là, c'est tout de même « A Porter Love Song to a Chambermaid ». Ça, c'est le premier morceau enregistré le 22 septembre 1944. Et l'autre morceau, qui est bien un morceau de bravoure pour les pianistes, parce qu'il faut passer au-dessus des mesures, « Over the Bars ». Et c'est un enregistrement, bien sûr, du 22 septembre 1944, puisque c'est le même jour. Deux morceaux pour le prix d'un tout de suite.
Thank you.
C'était joli.
Dis donc, oui, c'est entraînant. Ouais. Hein.
Ah, c'est entraînant. Dominique s'est trouvé mal, tellement il a trouvé ça beau, hein, Dominique. Tu reviens avec nous. Voilà, il est réveillé. Non, il ne s'était pas endormi. Hein.
Non.
Il était tombé dans les pommes d'émotion. Voilà, hein, voilà, tellement c'était beau. Alors, on a vu que James P. Johnson était capable de se renouveler totalement. On a entendu des morceaux le même, hein, d'entrée de jeu, joués à un moment, des moments très différents de sa carrière. Eh bien, on va écouter un morceau de Fats Waller qui s'intitule « Keeping Out of Mitch's Now ». Ce morceau de Fats Waller va être joué deux fois par James P. Johnson, d'abord seul au piano, ensuite avec son batteur Eddie Dougherty. Et ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est qu'ils sont joués à 7 semaines d'intervalle, le premier le 20 avril 1944 et le deuxième le 18 juin 1944. C'est un autre appel du 18 juin, si on peut dire, en fait. Voilà, on écoute James P. Johnson qui joue du Fats Waller. Thank you. c'était pas la même façon, rythme, hein, oui, pas le même rythme, tempo plus rapide dans le deuxième titre, dans la deuxième plage en fait, mais c'était bien le même morceau autrement. Et puis dans la première plage, il est un tout petit peu accroché, mais c'était pas très grave, ça s'entendait pas beaucoup, mais ça restait de la musique superbe dans les deux cas. Alors on va continuer à regarder les facettes et surtout à écouter les facettes de l'art de James P. Johnson avec les fameux concerts From Spiritual to Swing qui ont eu lieu en 1938 et en 1939, qui ont été produits par John Hammond. Ça s'est déroulé au Carnegie Hall de New York, carrément, donc dans le temple de la musique classique, mais il y a eu du jazz depuis qui s'est installé. James P. a été invité à ces fameux concerts From Spiritual to Swing. Il a joué avec un orchestre qui s'appelait le New Orleans Fitwarmers, donc les chauffeurs de pied de la Nouvelle-Orléans. Et ces fameux chauffeurs de pied, ces Fitwarmers, étaient dirigés par Sidney Bechet au saxo-soprano et par Tommy Lanier à la trompette, donc c'était pas rien. Et il a joué aussi James P. Johnson seul au piano l'année suivante, donc une fois en 38, une fois en 39. On va écouter une version en orchestre qui s'intitule Weary Blues, donc enregistrée en 1938 au Carnegie Hall. Voici Weary Blues. On avait un Sidney Bechet très en forme à la clarinette hein, et Tommy Lanier, qui était lui aussi en forme, à la trompette. Alors, avec une section rythmique qui est annoncée comme étant, et qui est surprenante, hein, qui est une section rythmique à côté de James Johnson, il y aurait Walter Page à la contrebasse et Joe Jones à la batterie. Mais je dois dire, je ne reconnais pas du tout le style de Joe Jones à la batterie, donc je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais l'orchestre de Conbezier était au programme et apparemment, Walter Page et Joe Jones ont joué dans cette formation. Ça paraît un petit peu bizarre, il faudrait écouter mieux peut-être, j'y crois pas trop. Peut-être qu'on va me démentir, ou bon, on verra. Mais les coups de batterie ne me semblent pas être de Joe Jones. Alors je vais maintenant annoncer une triste nouvelle, mais je pense que tout le monde était au courant. Fats Waller est décédé, mais en décembre 43. Ouais. Mais enfin, je le dis, parce que...
Pour ceux qui ne le sauraient pas.
Et voilà. Et en plus, comme c'était le disciple de James P., James P. Johnson a perdu son principal disciple. Il a perdu aussi un grand ami, parce qu'ils n'étaient pas du tout concurrents. Ils étaient amis, ils adoraient jouer ensemble, ils adoraient se confronter. En fait, bon, ça a été une perte aussi pour James P. Johnson. Et quand on a rendu un hommage avec d'autres jazzmen à Fats Waller en 1943, eh bien, James P. en était évidemment. Et il va enregistrer pour la firme Decca 8 compositions de Fats en avril et juin 1944. Et on va écouter un de ses enregistrements, une de ses compositions de Fats Waller, une des plus connues, puisqu'il s'agit de Honeysuckle Rose, enregistrée le 20 avril 1944. C'était James P. Johnson qui jouait Fats Waller. Il va continuer à jouer du Fats Waller, forcément. Et moi, ça me permet de faire une transition avec une émission prochaine qui est programmée dans quelques semaines, qui sera consacrée justement à Fats Waller, un autre grand pianiste, Stride, un pianiste de Harlem. On écoutera bientôt du Fats Waller. Et comme tout le monde a compris ce qu'était le Stride, ce qu'était la pompe, ben on est prêt à écouter. On est d'accord, hein ? Voilà. Alors, la façon de jouer de James P. Johnson laissera quelque chose à tous les grands pianistes de jazz, qu'ils s'expriment seuls au clavier, comme Fats Waller, ou avec orchestre, comme Fats Waller, ou même un grand orchestre, comme Duke Ellington, qui a été très inspiré aussi par James P. Johnson. Et je vous ai fait entendre aujourd'hui un James P. Johnson dans les diverses palettes de son art. J'ai volontairement déconstruit un peu la chronologie, et on a sauté d'une année à l'autre, on a fait des retours en arrière, pour qu'on s'imprègne mieux de son talent. Et dès ses années de jeunesse, il fut un pianiste de premier plan, inventant un style qui est le stride, qu'on a écouté aujourd'hui, qui a influencé tous ses collègues, même ses maîtres comme Hubie Blake, lançant des disciples fabuleux comme Fats Waller, sur lequel on reviendra bientôt. Bref, il fut bien le roi de Harlem, le roi du stride, mais un roi, comme chacun le sait, il ne perd sa couronne qu'à sa mort, évidemment. Et James P. Johnson a perdu sa couronne en 1955 quand il est décédé, hélas. Et un siècle plus tard, son influence demeure. Si on écoute aujourd'hui des pianistes comme Louis Mastier, Bernd Lowsky, Stephanie Trick ou Paolo Alderighi, je parle que quelques pianistes qui nous seront proches.
Limoges,
voilà,
oui.
Qu'on a vu, qu'on a entendu à Limoges. Oui. On peut constater que l'influence de James P. Johnson existe toujours, un siècle après. Voilà,
formidable.
On a fini avec James P. aujourd'hui.
C'était Swing Time 2017, préparé et présenté aujourd'hui par Alain Charbonnier qui vous a parlé Stride. Allez, on se retrouve prochainement pour d'autres aventures de jazz.
On va essayer avec encore un trépied, 88 touches.
Des noires et des blanches.
Voilà ce qu'on appelle un piano autrement. avec Fats Waller, on va essayer, voilà.
Très bien, à bientôt.
À bientôt, au revoir tout le monde.